RFI, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Simon Bourtembourg.
De nouveaux rassemblements à Nairobi, un an après les manifestations anti-gouvernementales dont la répression avait fait plus de 60 morts. C'est cette fois le décès en détention d'Albert Ojwang qui soulève une vague d'indignation. L'homme de 31 ans a été arrêté la semaine dernière après avoir accusé sur X un responsable de la police de corruption. Les représentants de la société civile du Sud Kivu appellent à un dialogue inclusif de toute urgence en RDC. Ils étaient réunis hier à Bukavu alors que Bintou Keita est elle en visite à Goma. La chef de la MONUSCO doit rencontrer aujourd'hui Corneille Nangaa à l'occasion de son déplacement dans la ville tombée aux mains de l'AFC M23. À la une de cette édition également, la défense de Pascaline Bongo qui dénonce un acharnement juridique. La fille aînée du défunt président Omar Bongo et sœur de l'ex-président Ali Bongo est inculpée en France dans une nouvelle affaire de corruption. Et puis, le tour du cycliste du Cameroun imputé d'une étape à Douala. L'état de la route était trop mauvais, les coureurs n'ont pas pu prendre le départ. La colère au Kenya, Nairobi, a été hier le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Deux voitures ont été incendiées. Les manifestants demandent que justice soit rendue après la mort en détention d'Albert Ojwang. L'autopsie de cet homme pointe des blessures infligées par une force externe, une version contradictoire à celle initialement donnée par la police qui assurait que l'homme s'était cogné à la tête dans le mur de sa cellule. De quoi relancer les tensions déjà vives dans le pays. À Nairobi, le reportage d'Alban Tiroir.
Les manifestants demandent justice et la démission du numéro 2 de la police, Eliud Lagat. Il est à l'origine de l'arrestation d'Albert Ojwang en cause des publications sur X qui accusaient ce responsable de corruption, un motif qui met en colère Joshua Kimani.
Albert a publié un tweet. Si l'inspecteur général adjoint de la police s'est senti maltraité ou diffamé, il avait d'autres moyens de contester, comme les tribunaux. Là, nous entendons qu'Albert Ojwang a été torturé et personne ne mérite cela.
Le chef de la police a promis des mesures disciplinaires. Après les conclusions de l'enquête, le président William Ruto a assuré que justice serait rendue, mais les autorités peinent à convaincre. Marianne Kassina et Lenny Sikuku sont descendues dans la rue pour dire stop.
Nous ne pouvons pas faire confiance à la police. Au départ, ils ont affirmé que notre camarade s'était cogné la tête contre le mur. Il y a beaucoup de déclarations suspectes. Nous sommes fatigués. Déjà l'année dernière, lorsqu'il y a eu des morts, on nous a promis qu'il y aurait des enquêtes, que ceux qui ont tué nos camarades seraient tenus pour responsables. Mais à ce jour, nous n'avons vu aucune justice.
Il y a près d'un an, plus de 60 personnes ont été tuées lors de manifestations anti-gouvernementales violemment réprimées. Hier, les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes et plusieurs personnes ont été blessées par des balles en caoutchouc. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Au Mali, l'opposition s'indigne après l'annonce du maintien des militaires au pouvoir. Un projet de loi qui prévoit d'accorder au général Assimi Goïta un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025 a été adopté mercredi en Conseil des ministres. Ce maintien au pouvoir du président et de l'ensemble des institutions de la transition intervient après la dissolution des partis politiques le mois dernier. Sur notre site internet, vous retrouvez la réaction de l'ancien ministre Mamadou Ismaïla Konaté. Aujourd'hui installé hors du Mali, l'avocat n'est attaché à aucun parti, mais il s'est progressivement mué en farouche opposant politique des autorités de transition. Écouter et exprimer sa solidarité avec les habitants de Goma, Bintou Keita est en visite dans la capitale provinciale du Nord Kivu, désormais sous contrôle de l'AFC M23. La chef de la MONUSCO doit échanger aujourd'hui avec Corneille Nangaa, le leader politique de l'Alliance Fleuve Congo. Une rencontre qui sera scrutée dans tout le pays et notamment par la société civile du Sud Kivu. Ses représentants étaient réunis hier à Bukavu, l'occasion de parler d'une seule et même voix. Ils en ont profité pour apporter leur soutien à la démarche des évêques de la SENCO et demandent un dialogue inclusif de toute urgence pour soulager les populations de l'Est. Magali Lagrange.
Le président du cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu prend la parole. Au nom de toutes ses composantes, Mick Mutiki lance un appel général au dialogue.
Nous lançons un appel vibrant à toutes les parties impliquées dans le conflit et toutes les forces sociales de se mettre autour d'une table à travers un dialogue inclusif en respectant un cessez-le-feu immédiat. Un dialogue dont la nécessité n'est pas le partage du gâteau ou de pouvoir, mais la refondation de la nation congolaise à travers des réformes pertinentes.
Les acteurs de la société civile recommandent la mise en place d'un couloir humanitaire, la réouverture de l'aéroport de Goma et également celle des banques fermées en raison du conflit, situation qui complique le quotidien des populations déjà éprouvées de l'est de la RDC. Pour la présidente de la nouvelle société civile congolaise aussi, le dialogue est indispensable, Mireille Mirembetassi.
Même si la guerre continue, tôt ou tard, on va finir par dialoguer. Alors, pourquoi attendre à ce que ça soit plus grave? Depuis février, ce n'était que la voix des armes qui était en train de gagner le terrain. Nous sommes fatigués. Il faut que ça cesse.
La société civile du Sud Kivu appelle également à la cohésion sociale et à la mise en place d'une justice transitionnelle pour établir les responsabilités.
On reste dans l'est de la RDC où sont concentrées la plupart des réserves minières congolaises. Cuivre, cobalt, argent ou encore uranium, des ressources naturelles qui attirent la convoitise des Américains bien sûr, mais aussi de l'Union Européenne, l'UE, qui souhaite concrétiser le partenariat stratégique sur la transformation et la valorisation des minerais congolais signé il y a de ça 2 ans. Paul Lorgerie, la DRC Mining Week de Lubumbashi tombe donc à pic.
Des dizaines d'entreprises européennes ont répondu à l'appel. Parmi elles, la franco-belge Umicore, qui appuie la société pour le traitement du terril de Lubumbashi, propriété de la Gécamine, dans le recyclage des déchets industriels. Selon un communiqué d'Umicore publié en 2024, l'entreprise doit apporter son savoir à la STL et, en retour, bénéficie d'un accès exclusif à un élément chimique issu des déchets pour le développement de ses activités. Une collaboration qui s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique sur les chaînes de valeur signées entre la RDC et l'Union européenne. Autour de tables rondes, de rencontres et autres échanges de cartes, Bruxelles souhaite aujourd'hui accélérer le processus. Du recyclage à la mécanique en passant par les échanges de savoir, un diplomate européen confie que l'enjeu est aujourd'hui de montrer que l'Union européenne veut agir selon des standards durables aux côtés du gouvernement et de la société civile. Et parmi les projets en préparation, la signature d'un accord entre le ministère congolais des Mines, le Musée royal d'Afrique et le Bureau français de recherche géologique et minière pour un soutien à la numérisation et à la gestion par l'État congolais des archives minières.
L'ambassadrice des États-Unis en RDC a par ailleurs fait le déplacement à Lubumbashi pour ce rassemblement des acteurs du secteur minier de la région. La Chine compte supprimer les droits de douane sur les exportations venant de 53 pays d'Afrique. Pékin entend ainsi stimuler les exportations africaines et réduire la balance commerciale largement en défaveur du continent. Ce geste s'inscrit aussi dans une ambition géopolitique plus large, renforcer la solidarité sud-sud et construire une communauté de destin Chine-Afrique, comme l'a souligné le président chinois Xi Jinping. À la une de l'actualité également, Pascaline Bongo, inculpée en France dans une affaire de blanchiment et de corruption. La fille aînée du défunt président Omar Bongo et sœur de l'ex-président Ali Bongo est impliquée dans une nouvelle procédure judiciaire. L'enquête du parquet national financier n'est pas liée à l'affaire dite des biens mal acquis. Pascaline Bongo est désormais mise en examen pour des faits qui remontent aux années 2000 quand elle était directrice de cabinet du défunt président gabonais. Entre 10 et 11 millions de dollars de fonds auraient pu être blanchis via une organisation hongkongaise. Faux, répond la défense Bongo qui dénonce un acharnement juridique. Maître Corinne Dreyfus-Schmidt au micro d'Amélie Tudet.
Cette mise en examen récente de Madame Bongo est pour moi un non-événement. À partir du moment où on voit le nom de Bongo, on voit rouge et systématiquement on s'acharne juridiquement sur Pascaline Bongo notamment. Alors cette affaire démarre, il faut quand même le dire, le 3 juillet 2015, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture d'information en juillet 2015. Il se passe rien pendant 10 ans. Bon, donc vous imaginez bien que si on avait des éléments tangibles, on n'aurait peut-être pas attendu tout ce temps-là. Elle est mise en examen 10 ans plus tard avec un dossier qui est très lacunaire. On ne sait même pas la date précise des faits. Ça concerne une société hongkongaise et le Gabon. Bon, voilà, tout ça est extrêmement confus et on a saisi la chambre de l'instruction pour contester cette mise en examen et on attendra d'être convoqué. Je suis assez sereine, puisqu'on a eu à peu près la même chose dans une autre affaire similaire il y a quelque temps et on a obtenu la relaxe de Pascaline Bongo.
Un nouveau partenariat entre Orange et l'Agence française de développement pour le numérique. Le géant français des télécoms opère sur le continent où il entend améliorer l'accès des populations au numérique. Les prêts et subventions de l'AFD permettront à Orange de financer de nouveaux projets en Centrafrique et en République démocratique du Congo. Retour en selle pour les participants du Tour du Cameroun. L'Allemand Yann Münzer s'est imposé hier au terme des 160 kilomètres courus entre Douala et Kirby. Mais cette semaine, une étape de la course cycliste a dû être annulée. L'état des routes de la ville de Douala n'a pas permis aux coureurs de faire le critérium urbain prévu dans la capitale économique du pays. Un incident qui vient rappeler un problème décrit au quotidien par les populations. Richard Onanena.
Donc je pense que l'état des routes au Cameroun est suffisamment désastreux. Et le dire, c'est comme enfoncer une porte ouverte parce qu'on sait que c'est vieux comme le monde.
Christian Chapmi, coordinateur de la rédaction d'un quotidien de la capitale, n'est pas surpris par l'annulation cette semaine d'une étape du Tour cycliste du Cameroun à cause de l'état des routes dans la capitale économique.
Pour une capitale économique comme Douala, voir qu'on a annulé le tour et qu'on se contente de faire des allers et retours, des allers et venues sur un petit tronçon pour valider l'étape par l'Union Cycliste Internationale, c'est déplorable et ça montre à quel point nous avons touché le fond.
Les images de l'étape du Tour annulée ont été relayées par de nombreux médias. L'état de délabrement du réseau routier camerounais est régulièrement pointé du doigt par la population. Trajet rallongé, véhicules abîmés. Pour ces deux habitants de Yaoundé, la situation est de la responsabilité du gouvernement.
Il y a beaucoup de négligence à ce niveau-là sur la route au Cameroun. Tu achètes une voiture, tu as 3 semaines, tu vas au garage, si ta voiture elle est basse. On se plaint tous les jours, mais rien ne change. Les routes sont impraticables.
C'est assez déplorable de voir l'état de certaines routes, même les grands axes routiers du centre-ville. Je pense que l'État devrait prendre ses responsabilités en intervenant là.
Plusieurs projets de réhabilitation de la voirie sont annoncés à Douala. À Yaoundé, la mairie de la ville vient de lancer le projet Yaoundé Cœur de Ville, une initiative qui vise à réhabiliter plusieurs axes routiers de la capitale camerounaise. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Et le Tour du Cameroun, on y revient dans quelques instants avec le journal des sports. L'actualité sportive à suivre dans la fin des RFI Matin, c'est avec Julien Coquel-Rohem.